Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour Culture et Politique.
Au programme aujourd'hui, trois sujets. La gauche et le parti du meurtre. Je cite Elon Musk, on l'a déjà cité à ce micro après l'assassinat de Charlie Kirk.
Charlie Kirk, oui, il y a quelques
Cette
mois.
Cette phrase est prémonitoire, elle résume tout en quelques mots.
Et elle s'applique encore une fois.
Elle s'applique malheureusement encore une fois. Un jeune homme est entre la vie et la mort, lynché à mort.
Par une
c'est
bande
le cas de le dire, par une bande de,
d'extrême-gauche.
D'extrême-gauche. Moi,
j'étais
pas
dans
trop,
le sillage de Rima Hassan.
Pierre-Henri, je n'aime pas trop dire extrême-gauche. Par une bande de gauchistes.
Oui, des gauchistes.
C'est la gauche, parce que voilà. la gauche, qu'elle soit d'extrême ou pas d'extrême, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça reste la gauche.
Ça reste la gauche et elle légitime ça. Vous verrez n'importe quelle personnalité de gauche toujours minimiser ce genre d'affaires, justifier, etc. On en parlera.
On va en parler.
Le deuxième sujet, l'Iran. Silence. On tourne, non, on ne tourne pas, on massacre. On massacre en Iran, en silence. Non, en tout cas, le silence absolu en France et en Europe, dans le monde occidental. Troisième sujet, la France, une république, nous dit-on. Non, monarchie absolue, pas vraiment. Une monarchie totalitaire avec Emmanuel Macron.
Sans aucun doute.
Avec ses nominations, son
verrouillage. Et de pire en pire, voilà, le verrouillage. Verrouillage des futures élections, d'après ce qu'il semble nous dire. Et puis, le placement, bien évidemment, de ses proches au poste clé des institutions, comme la Cour des comptes, on en parlera.
On en parlera. Alors, commençons par cette affaire dramatique, qui était, qu'on avait un peu... on craignait ce genre d'événement. Ça fait un moment, nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à le dire, ça fait un moment, après l'assassinat de Charlie Kirk, on disait mais quand est-ce que ça va arriver en France? Ça ne va pas tarder. On le craignait, on espérait de se tromper. Ce jeune homme n'est pas décédé, mais c'est comme si on espère un miracle. Mais
on précise aux auditeurs qui nous écoutent le lundi 16 février qu'on a préenregistré samedi 14, donc l'avant-veille. Et à l'heure où nous parlons, en effet, il est en état de mort cérébrale d'après les dernières informations et sous respirateur. Donc un miracle est toujours possible, mais les pronostics ne sont pas bons.
Voilà. Ne sont pas bons du tout. Alors, de quoi s'agit-il, Pierre-Henri?
Il s'agit en fait d'un jeune militant qui s'appelle Quentin, un militant lyonnais, d'après les portraits qui en ont été faits, en particulier un très honnête et très bien fait par Paul Sugy du Figaro, est un militant à la fois nationaliste, patriote, français, converti au catholicisme. Oui. Donc parce qu'il a été élevé dans l'athéisme visiblement, quelqu'un qui est très actif dans sa paroisse, qui a réussi à convertir ses propres parents, ce qui est quand même assez assez incroyable, et qui avait des engagements à la fois politiques et religieux, et dont tout le monde dit qu'il était tout à fait pacifiste, qu'il aimait le débat et la discussion. Et là, il y a eu en fait de l'agitprop, une action du groupe du collectif Némésis, donc un collectif féministe de droite.
Qui fait des actes pacifiques aussi.
Pacifiques avec des banderoles,
voilà,
des pancartes. Némésis,
la principale activité de Némésis, c'est d'alerter l'opinion en venant avec des banderoles. Perturber pacifiquement des réunions, c'est-à-dire, ou des manifestations.
Là, c'était même pas une perturbation, puisqu'il s'agissait en fait de Rima Hassan de la France Insoumise, qui était reçue à Sciences Po Lyon, bien évidemment.
Rima Hassan à Sciences Po Lyon.
Excusez du peu. Il faut noter que l'actuel directeur de Sciences Po Paris avait annulé sa venue
Absolument.
À Sciences Po Paris en redoutant les débordements et les troubles. Alors dans
Exactement.
Le public, il avait eu raison. Sciences Po Lyon, en revanche, bras ouverts.
Rima Hassan fait des appels au meurtre à chaque fois qu'elle fait une allocution ou une conférence.
Oui.
Elle fait des appels au meurtre, même pas cachés. Et on l'invite à Sciences Po Lyon pour venir faire sa propagande et ses appels au meurtre.
Et donc, en fait, en marge de cet événement, il y avait les habituelles bandes de dits antifa, c'est-à-dire des bandes de gauchistes plus ou moins dégénérées, plus ou moins violentes, plutôt plus que moins.
De la jeune garde.
Alors, jeune garde qui est censée être dissoute. Voilà.
Pas encore, c'est en cours.
C'est en cours de dissolution.
Quand il faut dissoudre Génération Identitaire, ça se fait en 24 heures.
C'est immédiat. Et alors, le Conseil d'État valide.
Garde, voilà. Qui est un mouvement d'extrême gauche dont le fondateur
est député
voilà. LFI est condamné, fiché S, mais pas seulement, parce que fiché S, condamné
pour menaces, pour coups et violences,
blessures volontaires, etc., condamné définitivement par les tribunaux. La jeune garde qui est à l'origine de plusieurs agressions condamnées par la justice, etc., Et malgré ça, la dissolution est en cours. Ça prend beaucoup de temps. Mais oui, je vais vous dire, Pierre-Henri, voilà. Les dissolutions ne suffisent pas.
Évidemment parce qu'un
groupe,
non.
Vous le dissolvez, il renaît sous un autre nom ailleurs. Ces gens-là, il faut les enfermer. C'est ça, la réalité.
Ça a toujours été comme ça.
Il faut les réprimer.
Ce qu'il s'est passé, c'est que donc ce Quentin s'était porté volontaire pour assurer une forme de service de sécurité. Donc c'était pas un professionnel de la sécurité autour du groupe Némésis.
Et pour cause, parce que le groupe Némésis, ce sont de jeunes filles qui sont agressées violemment lors de leur...
L'une d'entre elles a d'ailleurs été frappée, je crois, il y a pas moins de 2 semaines à l'occasion d'un autre événement justement public de cette nature.
Et vous avez là des garçons d'extrême gauche qui viennent violenter, mais frapper violemment, mettre à terre des jeunes filles qui font 40-45 kilos.
Hein.
Et puis les autres féministes de gauche, on les entend pas.
Évidemment qu'on ne les entend pas. Mais là, donc, non seulement il y avait un début de, comment dire, d'échauffement, d'échauffourée autour du groupe des Némésis, et à côté de cela, à quelques dizaines ou centaines de mètres, ce jeune homme, Quentin, et une deuxième personne, qui a été elle aussi victime de coups et blessures, ont été plus que pris à partie. Ils ont été encerclés par une meute d'au moins une quinzaine de personnes, des gauchistes cagoulés pour la plupart, et ils ont été lynchés. Ils ont été lynchés d'abord à coup de poing.
C'est une pratique courante.
Ah oui.
Du parti du meurtre, je vais l'appeler comme ça, le parti du meurtre,
c'est
la gauche.
Vrai, exactement.
Parce que moi j'ai vécu ça lorsque j'étais jeune, ils ne vous attaquent jamais, je n'ai eu affaire à un militant de gauche en face à face, d'homme à homme, jamais. Ils n'attaquent que lorsqu'ils sont à 20 contre 1.
Je vais y revenir, là c'était du en effet 15-20 contre 1, et ils ont fait en fait une action, j'allais dire de hyène, mais c'est pas gentil pour les hyènes. Les hyènes, ce sont des stratégies pour se nourrir dans la nature. Alors voilà, ce sont des stratégies qui parfois, comme pour les loups d'ailleurs, consistent à encercler le plus faible de la bande de proie. Ok, là, c'est de la gratuité pure, et il n'y a bien évidemment aucun honneur là-dedans, c'est l'inverse, ce n'est que du déshonneur et de la violence gratuite. Donc, ils l'ont encerclé, ils l'ont fait tomber, et puis ils l'ont littéralement tué, ou quasi tué, à coups de pied.
Voilà. J'allais vous dire, il frappe pour tuer.
Oui.
Non seulement ce n'est pas pour se défendre, mais c'est pire. C'est pas juste frapper pour blesser ou faire peur. Ils frappent pour tuer ces gens. Donc, il y a un sentiment chez eux d'impunité.
Alors l'impunité, et puis en plus c'est une impunité qui dure depuis des années et des années, en particulier sous le quinquennat Hollande, où on a vu que tous les débordements étaient autorisés aux Antifa et aux Black Blocs, sans qu'il y ait de véritables poursuites derrière. Et donc c'était, pardonnez l'anglicisme, mais c'était open bar, c'était bar ouvert, allez-y, menacez, comment dire, lynchez. Vous êtes du bon côté de la barre, vous êtes du côté antifasciste, donc vous avez plus ou moins tous les droits.
Ils ont plusieurs formes d'impunité. La première est la moins grave, c'est l'impunité, c'est l'indulgence médiatique. Ça compte, hein. Vous savez, les médias ne peuvent pas mettre quelqu'un en prison, mais ça compte, ça vous donne une sorte d'assurance.
Énormément.
Vous avez l'indulgence médiatique, parce que toutes leurs actions sont minimisées, justifiées par les médias. Après, vous avez l'impunité judiciaire, qui n'est pas rien. L'impunité judiciaire, parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés à très peu, voire pas du tout. Et puis troisièmement, vous avez l'impunité, et c'est la plus grave à mon sens, ce n'est pas l'impunité judiciaire qui est la plus grave, c'est la troisième, c'est le manque d'action de la police, et non pas parce que la police n'a pas envie d'agir,
parce qu'elle ne reçoit pas l'ordre. Voilà.
Donc la pire des choses, c'est nos gouvernements, nos ministères de l'intérieur, qui donnent des ordres d'indulgence avec ces gens, parce que vous savez, la justice, c'est bien, alors c'est pas bien qu'elle soit indulgente ou laxiste, mais c'est bien qu'elle condamne plus tard, mais quand vous êtes mort, bon, c'est toujours bien de condamner votre assassin, mais enfin, vous êtes déjà mort.
C'est un peu
le
tard.
Le plus important, c'est l'action immédiate. C'est-à-dire, lorsque ces gens agissent ou se préparent à agir, c'est de les arrêter immédiatement. Et ça, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur qui ne fait rien quand il s'agit d'eux. Pour d'autres faits, vous savez, quand il y a un groupuscule dit d'extrême droite, je peux vous dire qu'avant même qu'il se lève du lit pour sortir manifester, il est déjà arrêté dans son lit.
Ils sont cravatés et conduits au dépôt. Alors, parmi d'autres... François-Xavier Bellamy a eu la bonne réaction et pose la bonne question. Je le cite, imagine-t-on un instant la réaction dans le pays si un militant de gauche était frappé à mort en marge de la conférence d'un élu de droite? Tolérerait-on le même silence? Y a-t-il des crimes politiques autorisés en France? Est-il convenu que Quentin peut mourir dans l'indifférence?
Quentin risque de mourir dans l'indifférence parce qu'il y a un silence médiatique autour de ça. Lorsque je dis silence médiatique, c'est-à-dire que c'est une brève rapide dans la plupart,
à part des médias.
À part les médias du groupe
Bolloré, le Figaro et CNews.
Absolument. Voilà. À part le Figaro pour la presse écrite, CNews et Europe 1, et Radio Courtoisie, bien évidemment.
Évidemment.
C'est le silence radio, c'est-à-dire
ou c'est la minimisation.
Oui, c'est un fait divers. Alors comme par exemple la déclaration de Bellamy a été très peu reprise.
Très peu. Il y en a eu quelques autres, bien évidemment, voilà. Au FN. Donc il y a eu les réactions, entre autres, de Jordan Bardella, de Marine Le Pen et d'autres aussi. Alors à l'UDR, même à l'UMP, David Lisnard. Mais en dehors de ça,
Des LR,
pardon, excusez-moi.
Oui, mais j'ai fait les mêmes erreurs. Oui, voilà. Ils changent de nom tous les 6 mois. Faut suivre.
Changent de nom tous les 6 mois. Mais par rapport, rappelez-vous, à ce qu'avait été l'affaire Clément Méric.
Oh là là, oui, bien sûr.
Il y a maintenant quasiment 15 ans, on était en 2012, je crois. L'affaire
qui
Clément
était lui-même le provocateur, Méric.
Clément Méric, il n'y a pas d'analogie à faire.
Il est venu lui-même agresser.
Clément Méric était un antifa avec un très mauvais état de santé qui allait se balader dans les rues avec des copains à lui gauchistes pour trouver des cibles,
à la chasse des
chez les fascistes ou chez les skinheads, avec beaucoup de guillemets. Donc c'était un, lui, l'agresseur, et deux, il est mort d'une mauvaise chute à la suite d'un coup en 1 contre 1.
Absolument.
Il n'est pas mort à coup de pied dans la tête à 15 contre 1. Donc ça n'a strictement rien à voir avec le pauvre
Quentin. C'est lui qui est venu agresser.
Tout à fait. Mais en revanche, à l'époque, il était du bon côté. Donc, on a eu les chaînes de télé en continu qui ont fait leur titre pendant 24, 48, 72 heures sur le sujet, des condamnations unanimes en parlant du bruit de bottes, de retour des heures les plus sombres, etc. etc. Et les JNR, les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires de Serge Ayoub, auquel avait appartenu l'auteur du coup de poing Esteban, qui a passé 11 ans en prison, ont été dissoutes par ordre de Manuel Valls à l'époque, dans la semaine qui a suivi.
Oui.
Dans la semaine qui a suivi.
Je vous ai dit, c'est très rapide lorsqu'il ne s'agit pas d'extrême gauche.
C'est extrêmement rapide.
Et puis, vous avez donc ce silence médiatique. C'est un fait divers pour les autres. C'est une affaire. En fait, ils ont résumé ça. Et c'est ça le scandale. À une bagarre entre deux militants, une rixe entre deux,
ce sont
entre
les titres,
deux groupes d'extrêmes, extrémistes.
Ce sont les titres de l'article du Parisien rédigé par Jean-Michel Décugy, l'auteur du livre scandaleux sur le meurtre de Thomas à Crépol.
Oui, mais il en fait une spécialité, ce genre de désinformation.
Ce sont les titres du pas très malin, pour rester poli, dans la limite de la loi, Pierre Pleutu, le spécialiste extrême droite de Libération. Tout ça, c'est de l'euphémisation, de la minimisation, et parce que derrière, en fait, toute l'ambiance des déclarations de bon nombre de militants et de responsables d'extrême-gauche depuis des mois et des mois, c'est une ambiance, justement, de pouce au crime et de pouce au meurtre.
Absolument.
Pour tout ce qui n'est pas d'extrême-gauche comme eux. On va faire une pause, je crois.
On va faire une pause.
Pour le Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Un mot de conclusion sur cette affaire, Pierre-Henri?
Bah écoutez, un mot de conclusion. On a eu quand même des réactions qui viennent du gouvernement, en particulier de Aurore Berger et du ministre de l'Enseignement supérieur. Aurore Berger promettait ce matin, donc samedi 14, qu'il y aurait bien évidemment des condamnations lourdes pour les auteurs de ce meurtre, parce qu'il faut bien qualifier les choses par leur nom. Eh bien écoutez, on attend de voir. Et puis on
peut-être
espère
un
encore
mot
peut-être
sur le ministre de l'Intérieur qui, une fois de plus,
Laurent Nunez
ne peut pas s'empêcher de mentir, d'être de mauvaise foi et de continuer à défendre
chez lui.
Voilà, ministre de l'Intérieur qui vient nous dire ne vous emballez pas, c'est une bagarre entre deux personnes,
on ne connaît pas encore les circonstances exactes,
etc.
Voilà, alors que
c'est scandaleux, mais c'est pas la première fois, il n'est pas à son premier coup.
Et un élément qu'on a oublié de préciser, c'est que parmi les témoins du groupe Némésis, plusieurs ont identifié dans le groupe des lyncheurs, des agresseurs, l'un des assistants parlementaires de Raphaël Arnaud, le dirigeant de la Jeune Garde, voilà, député LFI d'Avignon. Voilà, la boucle est bouclée. On va peut-être passer au deuxième
sujet,
je crois.
On va passer à l'Iran. Alors, l'Iran, bon, on sait ce qui s'y passe. Nous, on en a parlé à ce micro. Il y a eu ces massacres un peu, comment dire, pas dans le silence. Si, dans le silence en Occident, mais enfin, sur place, non. Mais le régime avait bloqué tout pour empêcher les images de sortir, les témoignages. Il en est sorti quand même. Mais là, on commence à en savoir beaucoup plus. Parce que d'abord les communications sont plus ou moins rétablies, mais pas suffisamment pour pouvoir envoyer des vidéos. Mais nous en avons reçu. On se demandait comment ça se fait. Eh bien, on a compris que les Américains, l'administration Trump a fait rentrer
clandestinement, bien évidemment.
Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas su, parce que ça devait rester secret pour que l'opération réussisse. A fait rentrer en Iran clandestinement 6 000 terminaux Starlink. Alors, non. J'explique un peu aux éditeurs de Radio Courtoisie ce que c'est les terminaux Starlink. C'est une sorte de parabole toute petite qui fait le plus ou moins la taille d'un papier A4 et que l'on peut brancher on peut la poser n'importe où en la branchant à une prise électrique et on capte une liaison par satellite pour pouvoir utiliser son téléphone portable et envoyer des vidéos. Ils en ont envoyé 6000 en Iran qui sont rentrés. Donc ça veut dire qu'ils ont sorti les Iraniens du silence.
Oui,
et ça,
tout à fait.
C'est, on peut pas mesurer l'importance de cette
l'importance affaire. L'importance que ça a, parce que en fait, ce que l'on est en train de découvrir, on avait déjà des échos qui viennent d'ONG encore présentes en Iran, donc depuis le début de la répression. Mais ce que l'on découvre, c'est un massacre sans précédent par sa violence et sa brutalité et sa rapidité, en fait.
Alors, il y a eu 48 heures, le massacre, le vrai massacre, le plus important, a eu lieu pendant 48 heures, le 7 et le 8 janvier, ou le 8 ou le 9 janvier, je ne me souviens plus, pardonnez-moi pour les dates. Mais enfin voilà, il a eu lieu sur 48 heures. On estime à minima les victimes au nombre de 40 000. 40 000 tués
en 48
à coup de Kalachnikov et de mitrailleuses Dushka de 500 à 700 mm. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, ça va vous déchiqueter les corps humains. Je rappelle que les manifestants étaient à main nue. Ils manifestaient. Alors, évidemment, il leur arrivait de casser un lampadaire, de renverser une voiture, mais enfin, ils n'étaient pas armés. On tire, le régime iranien a tiré à la mitrailleuse et au fusil de guerre sur des gens
Désarmés.
Qui étaient accompagnés parfois par leurs enfants, sur des femmes qui étaient tous à main nue. Alors, je dis ça parce que on nous a rabâché les oreilles avec l'affaire de Gaza pendant des mois et des mois, où il y avait une guerre, où il y avait des terroristes, où
il y avait une
des civils,
de la population
entre
armée.
Guillemets, parce que moi je vais pas ouvrir le débat sur les civils palestiniens, mais ça c'est un autre sujet. Mais effectivement, des gens pouvaient mourir à cause d'une bombe qui tombe sur un lieu où il y a un lance-missile, etc.
Et ça a été le cas. Bon.
Oui, voilà. Ça a été le cas, bien sûr, mais ça s'appelle la guerre. Mais on tuait pas les gens à coups de fusil, désarmés. Dans le dos
ouais,
parce qu'on a des vidéos qui montrent des centaines de cadavres dans les hôpitaux avec des trous dans le dos.
Qui montrent aussi des blindés légers de la police foncer sur la foule,
écraser
les gens.
Ouais.
Entre autres
foncer
horreurs.
Dessus, c'est-à-dire que même faire des détours pour pouvoir en écraser le maximum. Voyez. Donc, et puis on sait, comme ce n'est pas nouveau, mais à chaque fois qu'il y a des manifestations géantes en Iran ces dernières années, ça a fonctionné comme ça, le régime importe des tueurs de l'étranger. Pourquoi ?
Oui, Des mercenaires.
Voilà. Parce que parmi les gardiens de la révolution, parmi les Basiji, il y a forcément des
gens
éléments.
Retournés.
Oui, mais puis aussi des éléments
tièdes,
dont des membres de la famille sont en face et qui ont du mal à leur tirer dessus, etc. Donc on importe des étrangers parce qu'eux n'ont pas d'état d'âme. On importe des miliciens du Hezbollah irakien, du Hezbollah libanais, des miliciens syriens.
On a parlé d'Afghans aussi.
Des Afghans.
De personnes d'Asie centrale.
Voilà, exactement.
Tous liés à des groupes islamistes.
Islamistes. Voilà. Et puis on sort aussi des criminels de prison. À qui on donne une arme, il va tuer le maximum, plus tu en tues, plus on te réduit ta peine.
Oui,
voyez
voilà.
Donc il y a une sorte de compteur.
Des grandes pratiques des régimes sanguinaires, ça, utiliser
exactement.
Les droits communs. Ça.
Voilà, c'est un classique, voilà.
Et donc là, en fait, 30-40 000 morts en deux jours, c'est-à-dire que c'est encore pire, encore plus rapide que les répressions qui ont déclenché la révolte en Syrie sous Bachar el-Assad. C'est pire que la répression d'Hama contre les frères musulmans, donc dans cette ville du Nord,
en
1980, sous Hafez el-Assad. En fait, c'est l'une des plus violentes répressions de tout le Moyen-Orient de ce dernier siècle, quasiment.
Exactement. Et en fait, le régime n'a aucun scrupule. Il a senti le danger. Vous savez, quand vous... Alors, on ne peut pas faire ça de manière improvisée. Parce qu'il y avait des tireurs sur les toits, parce que, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça, ce genre de massacre ne peut pas être organisé. Ça veut dire que c'est préparé.
Alors, c'est anticipé.
Anticipé. Voilà. La date n'était pas fixée. Il se trouve qu'ils ont décidé de faire ça ce jour-là parce qu'ils ont senti le danger, le débordement. Ils ont senti leur régime trembler un peu. Ils ont appuyé sur le bouton, mais tout ça est préparé pour au cas où.
Oui.
Et donc, ils ont appuyé sur le bouton.
Parce que ce n'est pas la première phase de grandes manifestations anti-régime qu'ils connaissent depuis 2010.
Mais là, l'ampleur des manifestations était 10 fois plus supérieure à ce qu'ils ont déjà eu. Et puis, ce qui leur a apparemment, d'après ce que l'on sait, ce qui a effrayé le régime, c'est le fait de se rendre compte que ce jour-là, les manifestants, le nombre des manifestants s'est multiplié par plus de 10 ou 20, après l'appel de Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, qui a fait un appel officiel au peuple iranien de se révolter, de renverser le régime, ce qu'il ne fait pas d'habitude. Hein. Il leur demande, il soutient en général. Précédemment, il avait à chaque fois soutenu les manifestants qui descendaient spontanément dans la rue. Là, il avait fait un appel, il les a invités à renverser le régime.
Ouais.
Première, et son invitation a été écoutée et suivie. Et le régime s'est rendu compte que a mesuré par là sa popularité.
Et l'impopularité du régime lui-même.
Exactement. Et il a mesuré aussi sa capacité à mobiliser en Iran. Et ça l'a effrayé et il a décidé d'éliminer. Parce que vous savez, ces gens sont prêts à tout. Alors, ils sont, en gros, pour résumer, coupés en deux. Il y a ceux qui sont là par intérêt maintenant. Donc, qui profitent du régime, qui font beaucoup
qui
d'argent,
s'enrichissent, qui trafiquent,
etc. Et voilà. Qui n'ont pas envie de perdre leur plate-bande, leurs intérêts. Et puis, il y a les idéologues.
Les islamistes, voilà.
Les islamistes, les idéologues, voilà. Et qui considèrent que les manifestants, et qu'ils le revendiquent, hein, vous savez, ils revendiquent les tueries. Ils disent, mais ce sont des mécréants. Ils revendiquent, ils disent, les manifestants sont des mécréants qui veulent renverser l'islam. Parce que l'islam, c'est eux, bien évidemment. Mmh. Ce qui n'est pas faux, hein. C'est
ce qui
l'islam.
N'est pas faux.
Ça ne plaît pas beaucoup à Monsieur Quatremer,
mais pourtant,
qui les appelle la République islamiste. Non, c'est la République
c'est
islamique. C'est l'islam,
voilà.
C'est ça. L'islam, le Coran appelle à tuer des mécréants. Mm. Et donc les manifestants sont des mécréants qu'il faut éliminer. Ils sont contre l'islam. D'ailleurs, les manifestants, je vais vous dire, ne se réclament pas, encore une fois, ça va pas plaire à certains en France,
ne se
réclament pas comme des musulmans modérés. Ils se réclament comme non-musulmans, très souvent. Ils ne veulent pas vivre comme des musulmans. Et donc, et le régime les appelle les mécréants, à juste titre, peut-être.
Sans
mais
doute,
ils sont très fiers
titre.
D'être des mécréants, vous savez. Et ils ont le droit de l'être et de renverser ce régime.
Et oui, et vous savez que en islam, l'apostasie, c'est puni de mort.
Exactement.
Que la répression et le meurtre ne sont pas plus défendus que ça, puisque Mahomet, le bel exemple, le prophète de l'islam, les a amplement pratiqués et ordonnés. Donc là, on est dans la cohérence islamique totale.
L'apostasie est punie de mort dans pratiquement tous les pays
pratiquement
musulmans.
Pratiquement tous les pays musulmans, sauf peut-être la Tunisie.
Modéré ou pas modéré.
Voilà.
Oui, modéré ou pas modéré. Quelqu'un peut tuer son cousin apostat sans être condamné. C'est un motif de
légitime défense, entre
guillemets.
De légitime
défense.
Voilà.
C'est un motif de non-lieu dans un tribunal. Mm. Votre avocat peut arguer que vous avez tué un tel de votre famille parce que c'est un apostat.
En défense de l'islam.
Je parle de n'importe quel pays musulman. Bon, passons au troisième sujet,
voilà,
si nous reste peu de temps.
Cette situation, elle est absolument catastrophique.
Alors, juste pour conclure sur l'Iran, on nous dit qui critique beaucoup Donald Trump pour ses interventions, et quand il n'intervient pas, évidemment, c'est un salaud. On critique Reza Pahlavi pour son appel. On va presque dire que c'est à cause de lui. Que voulez-vous qu'il fasse, qu'il leur dise taisez-vous, continuez à subir.
Voilà, et rentrez chez vous.
Et Donald Trump ne pas être intervenu. Alors, on sait déjà que les Américains ont fait rentrer ces terminaux, ce qui est très important. Parce que la communication aussi, ça permet pour les futurs manifestants de pouvoir mieux s'organiser. Parce
et de
que quand
se coordonner.
Quand vous n'avez pas de communication entre vous,
comment faites-vous? Donc, en gros, on ne sait pas tout.
On ne sait pas tout.
Il faut toujours être prudent quand
Espérons
on commente.
Que les Américains font rentrer aussi des armes
à
ces pauvres Iraniens, parce que le régime ne pourra pas tomber par des manifestants à main nue.
Voilà.
Malheureusement, ce ne sera pas possible. Avec un régime comme ça, il faut lutter contre lui par des armes.
Par des armes. Dernier sujet, peut-être, on revient en France.
La monarchie totalitaire.
Oui, alors parce qu'on dit souvent, vous savez, c'est une expression, que la Ve République, c'est une monarchie républicaine.
Oui.
Alors là, certains avaient parlé en effet de monarchie absolue en désignant Macron qui gouvernait de plus en plus seul. Mais en fait, non, quand on compare avec ce qu'on a connu, nous, comme monarchie absolue au XVIIe, XVIIIe siècle, ça n'a pas grand-chose à voir, en tout cas en termes d'idéologie. Et ce que l'on constate, c'est plutôt qu'il s'enterre dans une espèce de monarchie totalitaire, et ça, je reconnais que c'est une bonne formule que vous avez trouvée, Richard. Deux exemples. Le premier exemple, c'est que là, je crois que c'était vendredi 13 février, lors de une journée d'hommage commémorant justement la mort de Dilan Halimi, jeune juif qui avait été massacré, torturé par le gang des barbares et Youssouf Fofana il y a une quinzaine d'années maintenant. Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait un projet de loi présenté devant le Parlement proposant l'inéligibilité obligatoire pour toute personne condamnée pour des actes et propos, je cite, antisémites, racistes et discriminatoires. Mais comme on sait en fait que ça veut tout et rien
pardon,
dire.
Ces gens ne savent qu'interdire. Parce que dès qu'ils prononcent un mot, ça s'appelle inéligibilité obligatoire. Obligatoire, inéligibilité. Voilà. Ils ne savent parler que... C'est leur seul vocabulaire, c'est le seul qu'ils connaissent.
Les propos racistes et discriminatoires, et on connaît les tribunaux, on connaît leur manière
d'abord,
de faire.
D'abord, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut qui décide, tout dire qui et rien décide. Dire. Ben justement, les juges qui sont presque tous à gauche et ou à l'extrême gauche. Donc en gros, si vous êtes membre d'un parti ou militant d'un parti ou responsable d'un parti ou chef d'un parti, on pense à Éric Zemmour, parti qui a des positions hostiles vis-à-vis de l'immigration et de l'islam, et ben vous, tôt ou tard, vous allez être condamné parce que ce que vous dites ne plaît pas au juge d'extrême gauche que vous avez en face de vous, et donc Macron vous rendra inéligible. Donc là, c'est ce que vous disiez, c'est une manière de verrouiller entre guillemets la concurrence. Il pense un peu à l'extrême gauche avec l'antisémitisme en se disant qu'il y a bien des responsables LFI qui tôt ou tard vont tomber pour antisémitisme.
Bon, j'ai des doutes, hein, vous savez. Parce que vous avez remarqué, quand eux font de l'antisémitisme, j'en ai pas
ça passe comme une lettre à la poste. Et vous savez pourquoi?
Parce que les juifs sont leurs copains.
Oui, d'une part, et ils écrivent sionistes à la place de juifs, et ça passe tout seul.
Oui, mais non, je pense que, non, très sincèrement, je pense que Emmanuel Macron ne pense pas à l'extrême gauche. Hein. Il pense à celui qui a le plus de chances de gagner l'élection présidentielle, à savoir le candidat du RN. Voilà, c'est comme ça.
Il
pense à verrouiller Éric Zemmour, non pas qu'il a une chance d'être élu à l'Élysée en 2027, mais parce qu'il réveille un peu les autres, parce qu'il dit des choses, il a un franc-parler, et il éveille les consciences, il éclaire, et en fait, il veut faire taire Emmanuel Macron.
Et ça, c'est de plus en plus totalitaire, et de plus en plus verrouillé, les libertés disparaissent les unes après les autres en France, et ça n'a plus grand-chose à voir avec cet idéal démocratique et républicain dont on nous rebat les oreilles tout le temps.
On ne sait qu'interdire.
On ne sait qu'interdire. On arrive à la fin de cette émission, déjà, cher Richard, on va se retrouver dans une semaine pour un nouveau numéro de Culture et Politique, et bien donc lundi prochain à 17h sur les ondes de Radio Courtoisie.
Merci à tous. Merci à tous. À bientôt.
À bientôt.